Il est 12h30 sur France Culture. Bientôt 12h30 et 30 secondes. Les informations, Antoine Mercier.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Au sommet Asie-Pacifique de Pékin ce matin, le président chinois annonce la création d'une zone régionale de libre-échange. Monsieur Xi Jinping parle d'étape historique pour ce projet de grand marché qui vise à concurrencer celui promu par les États-Unis. Explication dans un instant de Jean-Marc Chardon. Veillée d'armes dans l'est de l'Ukraine, des convois militaires composés de chars et de matériel militaire lourd convergent vers la ville de Donetsk. Les séparatistes pourraient lancer, avec le soutien de Moscou, donc un assaut contre l'aéroport, précision d'Éric Biegala. L'Iran et la Russie signent un accord pour la construction de deux nouveaux réacteurs nucléaires à Bouchehr, à l'heure où les négociations piétinent entre l'Iran et les grandes puissances, dossier suivi par Ludovic Piétenu. Les Palestiniens marquent aujourd'hui dans la division le 10e anniversaire de la mort de Yasser Arafat. Mahmoud Abbas estime que le Hamas détruit la réconciliation palestinienne. On sera en ligne de Ramallah avec Nicolas Repère. François Hollande va inaugurer tout à l'heure dans le Pas-de-Calais un anneau de la mémoire mémorial sur lequel sont gravés les noms de soldats tombés en 14-18 sans distinction de nationalité dans l'ordre alphabétique. Dans une interview à La Voix du Nord, le chef de l'État estime que les peuples sont prêts à cette fusion dans le souvenir. On en parlera avec notre invité, l'historien Jean-Baptiste Michel, par ailleurs journaliste à Géo Histoire. Et dans la dernière partie, Caroline ?
Eh bien, en ce jour de commémoration de l'armistice de 1918 et quelques jours seulement après l'entrée en fonction de la nouvelle Commission européenne, nous avions envie de prendre la suite des matins de Marc Voinchet qui recevait ce matin même Jean-Pierre Chevènement et de parler de l'Europe. Notre invité sera Sylvie Goulard, qui est députée européenne.
On ne le sait pas toujours, mais des opérations de stérilisation de femmes sont régulièrement organisées dans divers états de l'Inde. Un programme national prévoit d'accorder 1400 roupies, c'est-à-dire environ 20 euros aux femmes volontaires. Certains états cherchent à remplir leurs objectifs et ils offrent aussi des biens tels qu'une voiture ou de l'électroménager pour recruter ces femmes. Il y a quelques jours, donc, c'était samedi, 8 d'entre elles sont mortes et des dizaines d'autres ont dû être hospitalisées. Ça s'est passé dans le centre du pays. Une soixantaine de femmes souffrent au total de complications consécutives donc à cette opération chirurgicale. 24 d'entre elles sont encore dans un état grave. La correspondance de Sébastien Farcy.
Le ministre en chef du gouvernement régional du Chhattisgarh a demandé l'accusation du médecin responsable de ce camp public. Ces décès pourraient en effet avoir été causés par la négligence de l'équipe médicale. Il faut dire que selon un média national indien, ces docteurs ont dû stériliser 83 femmes en à peine 5 heures samedi. Ces patientes étaient en majorité pauvres et chacune recevait l'équivalent de 20 euros après l'opération, une fortune qui correspond à plus d'une semaine de revenus. Depuis 1996, New Delhi a affirmé avoir cessé de donner des objectifs chiffrés de stérilisation pour contrôler la croissance de sa population, mais cette politique demeure au niveau des États régionaux. Selon l'organisation Human Rights Watch, les responsables locaux de santé sont souvent menacés de renvoi s'ils ne stérilisent pas assez de femmes. Résultat, beaucoup de ces opérations sont réalisées sous la contrainte et sans offrir d'informations préalables sur ses conséquences à ces femmes pauvres. En 2008, la stérilisation féminine représentait un tiers des modes de contraception utilisés en Inde.
Bonjour Bruno Cadenne.
Bonjour.
Alors l'Inde compte environ 1,25 milliard d'habitants. Elle pourrait être le pays le plus peuplé du monde d'ici à 20 ans. C'est donc ce qui justifie, en tout cas officiellement, ces politiques de stérilisation de masse.
Oui, c'est en 1952 que l'Inde lance son programme de planning familial avec comme ambition de faire baisser sa population. Mais c'est un échec. La promotion de la contraception se heurte à des réticences culturelles et religieuses. Dans les années 70, l'Inde décide alors de passer à l'étape des programmes de stérilisation. Un programme national relayé au niveau local par les États. Aujourd'hui, 37% des stérilisations pratiquées dans le monde le sont en Inde, soit plus de 4 millions de femmes par an. Les États les plus concernés sont le Bihar dans le nord ou l'Assam dans le nord-est, près du Bangladesh. Dans certains de ces États les plus pauvres du pays, les autorités locales ajoutent donc aux 20 euros prévus par le programme national des biens matériels, histoire de tenter de respecter les quotas souhaités au niveau national. Des programmes de stérilisation qui ne concernent pratiquement pas les hommes, essentiellement pour des raisons culturelles. Ces programmes sont également importants économiquement, il faut le signaler, pour certaines cliniques de ces États. Le fond du problème est que l'Inde ne sait comment régler sa natalité galopante. Chaque année, la population indienne augmente de 18 millions d'habitants. Un bébé sur 5 dans le monde naît en Inde. Et comme vous le disiez, l'Inde devrait rapidement devenir le pays le plus peuplé du monde devant la Chine, peut-être même dès 2025. Au XXe siècle, on imaginait que cela arriverait en 2050.
Bruno Cadenne, merci.
À l'occasion du sommet de l'APEC qui s'est ouvert cette semaine à Pékin, le président chinois annonce ce matin l'adoption d'une feuille de route prévoyant de créer à terme une zone régionale de libre-échange soutenue par la Chine.
Les économies des pays membres de cette zone Asie-Pacifique représentent 57% du PIB mondial, 44% des échanges internationaux. Monsieur Xi Jinping, donc le président chinois, parle d'étape historique pour ce projet de grand marché qui est en concurrence avec celui des Américains, qui s'appelle le partenariat trans-pacifique et qui s'inscrit dans le rééquilibrage de la politique voulue par Washington, rééquilibrage vers l'Asie de sa politique. Ça fait longtemps qu'on parle d'un centre de gravité du monde qui serait en train de basculer vers l'Asie Pacifique. Aujourd'hui, l'empire du milieu paraît plus que jamais justifier son nom. Jean-Marc Chardon, vous nous dire peut-être quel est l'enjeu de cette grande confrontation commerciale mondiale entre les États-Unis et la Chine dans cette région.
Alors, c'est déjà une réponse partielle d'une confrontation commerciale qui se joue aussi à plusieurs niveaux. À commencer par la monnaie, la Chine a eu l'impression d'avoir été victime du cours du dollar qui a entraîné la dépréciation de grandes réserves des pays créditeurs des États-Unis. La Chine qui a commencé à riposter en recourant de plus en plus à sa propre monnaie dans les transactions bilatérales. Et sur ce plan, eh bien, la Chine et la Russie se retrouvent maintenant côte à côte pour vouloir s'affranchir d'une monnaie de réserve qui a été forte, c'est vrai, mais qui aujourd'hui ne joue plus son rôle véritable. Cette guerre des monnaies qui en résulte n'a pas empêché la Chine de tripler son excédent commercial. On l'a vu au cours des derniers mois, notamment sous l'effet d'une forte augmentation des exportations, beaucoup plus que tout ce que prévoyaient les experts. Mais l'amplification de ces échanges oblige aussi à faire des concessions et à passer un certain nombre d'accords. Voilà pourquoi eh bien, la Chine et les États-Unis se sont déjà entendus pour une levée des droits de douane. Ça, c'est effectif. Mais l'autre aspect, ça concerne effectivement cette nouvelle étape. Elle concerne les zones cette zone régionale de libre-échange donc, que vous avez citée.
Merci Jean-Marc. Autre enjeu majeur sans doute pour ces prochaines années, la question de savoir si Internet va garder sa neutralité. Autrement dit, sera-t-il entièrement vendu ou privé ou est-ce qu'il va subsister comme espace collectif, espace quasi public? Les fournisseurs d'accès font pression pour pouvoir facturer des connexions plus rapides à certains de leurs clients, ce qui changerait évidemment la donne. Dans un communiqué publié par la Maison-Blanche hier, le président américain plaide pour que l'Internet libre et ouvert soit considéré comme un service public au même titre que l'accès à l'eau ou à l'électricité. Et il requiert à ce titre, selon lui, une stricte application de ce principe de neutralité du net. Catherine Pétillon.
Oui, outre-Atlantique comme en Europe, les assauts se multiplient de la part des fournisseurs d'accès contre ce qu'on appelle la neutralité du net. Ce principe est au fondement d'Internet. Il garantit un traitement technique identique à tous les fournisseurs de contenu, sans discrimination en fonction de la source, de la destination ou du contenu d'une information transmise sur le réseau. En d'autres termes, les fournisseurs d'accès ne doivent jamais bloquer ni ralentir l'accès aux sites qui leur déplaisent, ni favoriser un contenu qu'ils veulent privilégier. Et c'est cette égalité que les opérateurs télécoms tentent de faire tomber. Alors dans sa déclaration, le président Obama s'exprime fermement en faveur d'un Internet libre et gratuit. Si son opinion était connue, c'est la première fois qu'il prend position aussi clairement. Considérer légalement l'accès à Internet comme un service public permettrait, dit-il, de garantir ses règles. Obama plaide notamment pour l'interdiction de voies rapides payantes. C'est une réponse au lobbyiste qui intervient alors que la FCC, le régulateur américain des télécoms, doit mettre en œuvre de nouvelles règles d'encadrement du trafic Internet. Au printemps, il a justement adopté une proposition contestée permettant de faire payer les sites web pour leur maintenir une qualité technique optimale. Ceux qui ne paieront pas devront, eux, se contenter d'un service minimal et d'un débit plus lent. Alors si ces pratiques se généralisaient, cela aboutirait concrètement à un Internet à deux vitesses. Toute la question est de savoir si la FCC, autorité indépendante, suivra la recommandation d'Obama ou cédera à la pression des opérateurs et des républicains plus hostiles à la régulation.
Catherine Pétillon, merci. 1h20.
Veillée d'armes dans l'est de l'Ukraine, des convois militaires composés de chars et matériel militaire lourd ont convergé ces derniers jours vers la ville de Donetsk.
Oui, des colonnes de camions, sans plaque d'immatriculation ont en effet été observées dans le centre de la ville de Donetsk, donc, et dans ses environs. De nombreux véhicules tractaient des canons et l'un d'eux sans bâche laissait voir des caisses de munitions empilées. Il y a 5 soldats ukrainiens qui sont par ailleurs morts, ont été tués ces dernières heures dans certains accrochages qui se poursuivent. Patrick Biegala, bonjour.
Bonjour Antoine.
Il faut sans doute s'attendre à cette offensive maintenant des séparatistes qui, avec le soutien de Moscou, pourraient lancer l'assaut contre l'aéroport de la ville.
Il semble que les rebelles s'apprêtent à lancer une ou plusieurs offensives. D'abord en effet sur l'aéroport de Donetsk, qui demeure pour les rebelles le principal abcès de fixation, celui qu'il faut crever. Les positions de l'armée ukrainienne sur cet aéroport mettent la principale agglomération aux mains des rebelles à portée des tirs d'artillerie. Et à terme, cet aéroport international est également, toujours pour les rebelles, un objectif stratégique majeur, la seule véritable porte de sortie et d'acheminement de fret pour l'autoproclamée République populaire de Donetsk. Il ne faut donc pas s'étonner si c'était là, autour de l'aéroport, qu'on a constaté la plupart des échauffourées qui ont perduré durant le cessez-le-feu consécutif aux accords signés à Minsk le 5 septembre dernier. L'arrivée ces derniers jours à Donetsk de nombreuses pièces d'artillerie, lance-roquettes multiples grades ou canons lourds, laisse augurer d'une sérieuse préparation d'artillerie avant un assaut sur cet objectif. Mais il y a aussi le saillant de Debaltseve. Entre les villes de Donetsk et Luhansk, les deux principales agglomérations contrôlées par les rebelles, là, l'armée ukrainienne tient une position stratégique. Debaltseve est un important nœud ferroviaire, mais les Ukrainiens y sont presque entièrement encerclés. Et il semble qu'une poussée rebelle dans cette direction soit d'actualité. C'était là, en tout cas, qu'hier, la moitié des quelques 65 tirs d'artillerie répertoriés contre les positions ukrainiennes ont frappé. Et il y a enfin la grande ville portuaire de Mariupol et ses aciéries, tout au sud, sur la mer d'Azov. Des renforcements de position ont été constatés ces derniers jours du côté des rebelles, mais la prise d'une ville de cette taille semble hors de leur portée, à moins bien sûr que ce soit les troupes de la Fédération de Russie qui mènent l'assaut.
Éric Biegalam, réaction en Europe. La porte-parole de la diplomatie commune déclare que les ministres européens des Affaires étrangères étudieront la semaine prochaine un éventuel alourdissement des sanctions prises à l'encontre de la Russie et les moyens aussi d'aider l'Ukraine. Israël a encore renforcé ses mesures de sécurité au lendemain de deux attaques au couteau qui ont tué une femme en Cisjordanie et un soldat. C'était à Tel Aviv hier donc. Il y a eu ce matin des incidents à Hébron. Un jeune Palestinien a été tué lors d'affrontements avec l'armée. Les Palestiniens qui marquent le 10e anniversaire de la mort de Yasser Arafat, figure donc emblématique de la lutte pour l'indépendance, dans un climat de division qui a empêché la tenue des célébrations dans la bande de Gaza. On est en ligne avec Nicolas Repère qui est à Ramallah en ce moment. Bonjour.
Oui, bonjour Antoine.
Donc le président Abbas vient de s'exprimer et il vient d'accuser le Hamas de détruire la réconciliation palestinienne.
Oui, notamment devant une foule impressionnante venue pour honorer la mémoire de Yasser Arafat, Mahmoud Abbas, l'actuel président palestinien, s'est montré très offensif. Alors il a bien sûr salué l'œuvre de son prédécesseur 10 ans après sa disparition, mais il a surtout accusé le Hamas de faire le jeu d'Israël. Quel résultat a apporté la guerre à Gaza, à part plus de 2000 morts et des destructions immenses, a lancé le président de l'autorité palestinienne. Il a dénoncé l'annulation par le Hamas des cérémonies prévues à Gaza, vous l'avez dit, en l'honneur du prix Nobel de la paix 1994. On attend désormais la réaction du parti islamiste accusé. Le gouvernement d'unité nationale soutenu par les deux factions a-t-il encore une raison d'être? La question est désormais posée. Mahmoud Abbas est par ailleurs largement revenu sur les tensions actuelles avec Israël. Jérusalem est notre capitale et il est hors de question de laisser les juifs les plus extrémistes prier sur l'esplanade des mosquées, le troisième lieu saint de l'islam, a notamment lancé le président actuel, très applaudi à ce moment-là. Nous saisirons les plus hautes instances internationales si Israël ne met pas fin à l'occupation en Cisjordanie et à Jérusalem, a dit le président Mahmoud Abbas.
Merci beaucoup Nicolas Repère de RFI, vous étiez en direct de Ramallah. Et à l'occasion de ces 10 ans donc, de la mort d'Arafat, la presse publie ce matin une lettre de Marwan Barghouti, écrite de la prison où il est incarcéré depuis 2002 et dans laquelle il estime que poursuivre le choix de la résistance globale et armée, c'est être fidèle à l'héritage d'Arafat, à ses idées, à ses principes pour lesquels des dizaines de milliers sont morts en martyrs. Fin de citation.
Les chances d'un accord sur le nucléaire iranien avant la date butoir du 24 novembre semblent s'amenuiser.
Les hauts responsables politiques des 6 grandes puissances qui sont impliquées dans ce dossier nucléaire iranien vont se rencontrer aujourd'hui à Mascate après 2 jours de discussion entre le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue iranien Javad Zarif. Ludovic Piétenu, il semble que effectivement ces négociations ne sont pas encore prêtes d'aboutir et nous sommes à quelques jours de cette date butoir du 24 novembre.
Oui, en tout cas, cette intensification des discussions est bien la preuve que nous entrons dans une période décisive. Le sprint final commencera véritablement mardi prochain à Vienne, en Autriche, pour se terminer 6 jours plus tard, le 24 novembre, la date butoir qui marquera la fin de l'accord intérimaire signé à Genève il y a un an. Le P5+5, comme on l'appelle, à savoir les Occidentaux savent qu'ils n'obtiendront pas l'accord parfait. Certains, plus que d'autres, en son sein, semblent prêts à s'en satisfaire. C'est le cas des Américains, par exemple, plus que des Français. Paris, qui pourrait, comme l'an dernier, venir s'opposer et rappeler son attachement au principe de non-prolifération. Les Américains, eux, Antoine, ont en tête l'alliance objective et inédite depuis 35 ans qu'ils forment déjà avec Téhéran dans la lutte contre le groupe État islamique en Irak. La situation sécuritaire dans la région joue donc, même si le dossier nucléaire a son existence propre. La réussite de ce dossier permettrait tout de même une certaine normalisation de l'Iran. Elle redonnerait à Téhéran une place, une légitimité dans le jeu régional. Pour preuve, cet autre élément, cette lettre révélée par le Wall Street Journal, envoyée par Barack Obama au guide suprême iranien. Un tel niveau d'échange entre les deux pays est là encore inédit depuis 35 ans. Obama, pour qui ce dossier est devenu désormais un enjeu personnel, à l'heure en plus où il vient de perdre le Sénat, Obama qui met dans la balance une coopération avec l'Iran contre les djihadistes et cet accord sur le nucléaire. Khamenei, le guide, lui a répondu hier via le réseau social Twitter en publiant un texte intitulé « Pourquoi le guide soutient les pourparlers nucléaires ?» Un titre qui n'était pas si évident depuis que l'équipe du nouveau président Hassan Rouhani et son ministre des Affaires étrangères Mohamed Javad Zarif ont repris ce dossier il y a un peu plus d'un an.
Ludovic, pied tenu, et puis on apprend que la Russie et l'Iran signe ce matin, donc dans ce contexte, à Moscou, un accord sur la construction de deux nouveaux réacteurs dans la centrale nucléaire iranienne de Bouchehr. François Hollande voulait faire des commémorations de la Grande Guerre un des temps forts de son quinquennat. Les cérémonies qu'il va présider tout à l'heure sur le site de Notre-Dame-de-Lorette à Ablain-Saint-Nazaire dans le Pas-de-Calais resteront sans doute relativement discrètes. Il y va inaugurer notamment cette fameuse anneau de la mémoire, c'est ce mémorial sur lequel sont gravés les noms de 580 000 soldats tombés en 14-18 sans distinction de nationalité dans l'ordre alphabétique. Donc nous sommes en compagnie d'un historien pour parler du 11 novembre aujourd'hui, Jean-Baptiste Michel. Michel, peut-être, je vais demander, avant que vous interveniez, à Sylvie Goulard qui vient d'entrer dans notre studio et qui est l'invitée de la dernière partie, députée européenne du Modem. Est-ce que vous avez le sentiment que ce que dit François Hollande par rapport à cet héritage de la mémoire, c'est-à-dire la fusion possible aujourd'hui du souvenir de cette grande guerre, est effectivement devenue commune? Est-ce qu'on peut fusionner ainsi les mémoires, comme il l'explique dans cette interview à La Voix du Nord? Les peuples sont prêts à cette fusion dans le souvenir, dit-il. Et c'est même vrai pour 39-45. En tant que députée européenne, j'imagine que vous êtes d'accord avec cette vision-là, qu'on est passé à autre chose?
Non, mais si fusion veut dire compréhension mutuelle pour les souffrances de l'autre, si ça veut dire, comme d'ailleurs dans des expériences qui ont été menées déjà depuis des années, comme l'historial de Péronne, etc., approche commune de tous ces événements, c'est une bonne chose. Après, je crois qu'il ne faudrait pas en venir, mais je ne pense pas que ce soit ce que le président de la République veut dire, à gommer les raisons pour lesquelles on s'est affronté et aussi la virulence des nationalismes à l'époque. Je pense qu'il faut aussi enseigner aux jeunes la réalité qui était celle des combattants, c'est-à-dire l'illusion que la guerre allait être courte, fraîche et joyeuse, qu'on serait à la maison avant Noël, et ce qui s'est passé ensuite. Donc je pense qu'il faut effectivement rapprocher les points de vue. Il y a eu le manuel d'histoire franco-allemande est très intéressant de ce point de vue-là. Je ne sais pas si vous l'avez déjà feuilleté. On peut avoir une approche commune de l'histoire, mais pas une approche évidemment qui gomme toutes les différences.
Sylvie Goulard, merci beaucoup. On vous retrouve dans quelques minutes donc pour la dernière partie de la Grande Table. Et nous sommes donc avec Jean-Baptiste Michel, historien. Vous êtes aussi journaliste, je crois.
Oui, géo-histoire. Surtout journaliste.
Surtout journaliste. Approchez-vous un petit peu du micro. Alors, effectivement, il y a cette question fondamentale de savoir si nous mettons, par exemple, ces 580 000 soldats tombés en 14-18 par ordre alphabétique, en faisant donc la fusion des mémoires, effectivement, sur ce monument qui va être inauguré, cet anneau de la mémoire, est-ce que l'on ne fait pas ressurgir immédiatement la question que posait ce matin Jean-Pierre Chevènement dans Les Matins, à savoir à quoi ont donc servi tous ces morts? Le sacrifice de toutes ces vies.
Ben, je crois d'abord on peut dire c'est un travail formidable de précision. 579 606 noms quand même, il a fallu répertorier, graver ça sur des feuilles d'acier.
Et pourquoi ces noms-là d'ailleurs, on le sait ou...
je crois qu'il y a eu une énorme étude, ça a été long, très long, c'est un travail colossal. Mais surtout ça individualise le drame, cette horreur confuse qui reste confuse dans nos mémoires, ça l'individualise. Chaque nom est un peu une histoire, est un visage presque. Et on passe un peu de l'ère industrielle à l'ère numérique. Et c'est la paix. Il dit que le travail, Hollande dit que le combat pour la paix n'est jamais achevé. Mais là, c'est un, je pense, un moment déterminant du travail de la mémoire, c'est-à-dire où il n'y a plus vraiment ni vainqueur ni vaincu, mais où il y a des hommes qui ont souffert et qui sont...
Voilà. Et vous avez travaillé beaucoup sur ces questions.
Dans Géo Histoire, j'ai écrit des articles sur la guerre de 14.
Et quand on sait ce que c'était, notamment cette bataille de Verdun, dont vous parlez dans un article dans cette revue, il y a toujours ce contraste qui demeure entre ce que vous dites là et puis ce qui s'est produit. Difficilement, on arrive mal à recoller les deux situations malgré tout.
Oui, c'est la commémoration de la guerre de 14, mais c'est la commémoration de cette erreur qu'est la guerre, surtout parce que les décideurs, les militaires n'ont pas cessé de se tromper. C'est une erreur après l'autre. Enfin, c'est commencé, à part quelques gens un peu lucides, il faut rendre justice à Pétain qui, à l'époque, avait, comme dit De Gaulle, le sens du réel et du possible, et puis qui disait qu'on ne lutte pas avec des hommes contre du matériel, donc il a arrêté l'offensive à outrance que voulaient tous les autres généraux. Et puis son opposant, le général von Falkenhayn à Verdun, qui était assez lucide, assez réaliste, mais qui s'est trompé sur toute la ligne. Verdun est un emblème de cette guerre de 14, puisque Falkenhayn, qui l'a déclenché, voulait une offensive rapide. C'était un objectif assez secondaire qui devait déclencher la réaction des Anglais, parce que le grand ennemi, c'était l'Empire britannique, beaucoup plus que la France. Et il s'est trompé sur toute la ligne. Les Français ont tenu bon et les Anglais, ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas mordu à l'hameçon, pas tout de suite, du moins.
Christine Moncla, une question.
Oui, alors sur l'anneau de la mémoire, ce qui est important, c'est qu'effectivement, il rend hommage à presque 580 000 hommes du monde entier qui sont tombés dans le Pas-de-Calais.
Oui, oui, oui.
Et François Hollande a prévu de s'arrêter devant trois noms, un Français, un Britannique et un Allemand.
Oui.
D'après vous, ce geste et le fait que le monument soit international, il a fallu 100 ans tout de même pour y arriver, ça symbolise quoi aujourd'hui ?
Ça symbolise ce que je vous disais tout à l'heure, l'individualisation de l'histoire. Ce sont des individus, c'est plus des masses, c'est plus des nationalités, des nationalismes. On commémorait, chaque pays commémorait ses morts jusqu'à présent. Maintenant, on commémore cet événement effroyable avec une précision qui est bonne pour la paix.
Mais, pardon, on voit quand même, François Hollande avait invité donc des chefs d'État et de gouvernement pour l'inauguration de cet anneau de la mémoire, notamment Angela Merkel, David Cameron. Ils ont décliné, ils ont envoyé des ministres. Alors que pour les cérémonies de l'anniversaire du débarquement, là, pour le coup, il y avait beaucoup plus de chefs d'État présents. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la guerre de 14, elle est moins consensuelle. Enfin, c'est difficile, plus difficile que pour la guerre de 40, de faire consensus au niveau international.
Oui, parce que peut-être la guerre de 14, c'est un peu le début de cette espèce de guerre de 30 ans qui était celle du XXe siècle, et on retrouve les clivages. Vous voyez, par exemple, à Londres, ce qui s'est passé. Ils ont planté 888 000 coquelicots en céramique dans les douves de la Tour de Londres pour symboliser chaque mort d'un soldat britannique. Mais du coup, ça a soulevé une énorme polémique à Londres, puisqu'on dit qu'ils ont oublié les morts non britanniques. Donc les gens, c'est pas évident. La commémoration internationale de Notre-Dame de Lorette est mille fois plus actuelle, je trouve, plus moderne.
Internationale, on va demander son avis à Sylvie Goulard. Effectivement, peu de chefs d'État. Bon, alors la plupart sont dans ce sommet Asie-Pacifique dont on parlait tout à l'heure. Et puis, Mme Merkel qui ne viendra pas non plus. Est-ce que ce n'est pas le signe que l'Europe, finalement...
Écoutez, moi je rentre de Berlin. Là, les Allemands ont commémoré aussi la chute du mur de Berlin. Enfin, il y a beaucoup de dates. Moi, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit sur l'individualisation. Je crois qu'il faut. Enfin, c'est très important qu'on se dise, et ça, on peut le faire chacun devant le monument aux morts d'un village. On n'a pas besoin d'aller. C'est d'imaginer, voir, il y a plusieurs noms de la même famille. Imaginez ce que ça donnerait dans nos familles aujourd'hui, c'est-à-dire 1, 2, 3, 6, 10 morts. Des jeunes, des moins jeunes, et les individualiser, leur redonner un prénom. Et ça, c'est le côté qui est très, très beau, je trouve, dans cet anneau.
Oui,
mais est-ce que ça ne fait pas sortir de l'histoire, le fait d'individualiser ces situations ?
Ça l'humanise. Ça lui donne un visage, ça lui donne des visages.
Ça ne le transforme pas en catastrophe indépendante, finalement, des responsabilités.
Vous savez, c'est un peu comme le mémorial de la Shoah aussi qu'on peut voir à Paris, où tous les noms des juifs déportés qui étaient en France, 76 000, sont minutieusement écrits, et c'est extrêmement fort, extrêmement émouvant. Chaque fois, on s'arrête presque devant chaque nom, on réfléchit, on essaie d'imaginer la personne qui portait ce nom, Et c'est ça qu'a réalisé Philippe Prost, l'architecte, magnifiquement, je trouve.
Parallèle avec la mémoire de la Shoah, ça vous paraît effectivement justifié ou...
Je crois qu'il y a toute une continuité dans l'horreur du XXe siècle. Moi, je n'ai jamais considéré qu'il fallait séparer les deux guerres. La deuxième a ses racines dans la mauvaise gestion de la paix. Quand vous lisez, je recommande aux lecteurs un livre fabuleux écrit par un Allemand qui s'appelle « Histoire d'un Allemand » de Sébastien Hafner, vous comprenez que les Allemands n'avaient pas le sentiment d'avoir perdu la Première Guerre mondiale. Et on ne peut même pas comprendre l'histoire de l'Europe aujourd'hui et la crise de la zone euro si on ne voit pas les années 20.
Voilà. Et on va comprendre un peu mieux peut-être la zone euro et ce que peut faire l'Europe effectivement aujourd'hui dans la dernière partie. Vous êtes notre invité. Merci beaucoup Sylvie Vaugoulard. Merci à vous Jean-Baptiste Michel d'avoir accepté votre invitation. J'envoie donc à l'article que vous publiez dans ce dernier numéro de la revue Géo-Histoire. Un temps encore pluvieux sur le sud-est, variable ailleurs des températures de 12 à 22 degrés. Fin de cette édition réalisée avec Yacine Bouzard. Le prochain journal est à 18h avec Antoine Marette.